Bien, alors écoutez, vous allez prendre la parasha de Vayeshev. Qui commence au chapitre 37. Alors ceux qui ont déjà lu le texte, vous avez dû remarquer que le personnage central de la parasha, qui occupe la plupart du contenu du récit, c'est Joseph. Je commencerai par introduire quelques-uns des thèmes qui nous sont rappelés par le texte de la naissance de Joseph dans la paracha précédente. Mais il y a, à un certain moment donné, une interruption d'un chapitre entier, ce chapitre 38, si je me souviens bien, on y arrive, 39 peut-être, sur l'histoire de Judas. Alors c'est une paracha qui est extrêmement dense du point de vue du récit et des thèmes d'identité que ça représente. Je vais, en tout cas, tout à l'heure, proposer un ou deux sujets d'étude après cette introduction, mais je voulais vous demander, comme d'habitude, pour ceux qui ont lu le texte, si vous avez une question à vouloir envisager, vous me dites tout de suite. D'ailleurs, je le répète, je ne vous demande pas ça comme formalité. Je tiendrai beaucoup à ce que ceux qui viennent au cours prennent au moins la précaution de lire ce texte avant d'arriver pour l'étudier. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quelque chose qui me passait par l'esprit. Bon, dans tous les cas, ne restez pas les jambes croisées comme ça. Dans un cours de Torah, c'est indécent. Et voilà, ça y est. Oui. Et pourquoi Hebron et pourquoi pas Kiryat Arba? Ah mais non, je veux dire, pourquoi pas Yericho? Je veux dire, la première partie de votre question se pose, mais la deuxième est arbitraire. Pourquoi vous dites pourquoi Ashrem et pas Hebron? Pourquoi?
Non, ils sont allés de Hebron à Ashrem.
Oui.
Donc ils sont allés très loin de Hebron.
Non, il ne s'agit pas de très loin de Hebron, il s'agit de Ashrem. Pourquoi ils sont allés à Ashrem? On verra ça tout à l'heure. D'ailleurs, habituez-vous, quand vous avez une question à poser, ne posez pas deux questions à la fois. C'est deux questions différentes que vous avez posées. Bien, alors j'ai marqué. Est-ce qu'il y a un autre problème? Vous n'allez pas me dire que personne n'a lu la paracha. Et alors, si vous l'avez lu, ça m'étonne. Vous êtes avancé en chokhma. Bon, il n'y a pas d'autres questions? Ken?
Pourquoi il y a d'un côté Yosef et d'un côté tous les frères? C'est parce qu'il n'y a pas, dans tous ces frères, il n'y a pas un seul qui soit de son côté.
C'est faux. Il y a eu Réouvel et Judas qui étaient de son côté. Tu as mal lu. Ah non, tu as mal lu. Bon, je vais en tenir compte, mais c'est un faux problème. Ça y est, oui, n'inventez pas des questions, hein, s'il te plaît.
Pourquoi la stratégie est-elle acceptée? Et pourquoi pas, historiquement, avant Tina?
J'ai marqué ça, je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. Je vais marquer ça. Là encore, c'est deux questions complètement différentes. Pourquoi Tamar est acceptée et pourquoi Timna est refusée? Mais ce n'est pas lié. Ce n'est pas pourquoi Tamar et pas Timna. C'est deux questions différentes. Ou alors tu ajoutes pourquoi pas Timna, par exemple. Parce que sinon, ça installe un couple artificiel, Tamar-Timna, qui n'existe pas dans le monde. Alors, une question de logique pure. Bien. Alors écoutez, donc, je vous propose de reprendre un peu avant les quelques versets de la naissance de Joseph qui vont éclairer un peu l'identité de ce fils de Jacob, ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi il y a tellement de problèmes autour de Joseph dès le début de ce récit. Alors c'est dans la paracha de Vayetse, donc au chapitre 30. Et vous allez prendre au verset 22, chapitre 30, verset 22. Bien, alors je me réfère à un passage précédent dans le texte. lorsque la Torah raconte les engendrements de Jacob lorsqu'il se trouve en exil chez Laban. Entre-temps, nous avons appris dans la parasha de la semaine dernière qu'il revient de chez Laban, mais il y a un thème caractéristique concernant cette histoire de Jacob chez Laban que je voudrais vous rappeler. C'est le fait que tous les enfants de Jacob qui vont fonder les tribus, ceux que seront les tribus d'Israël, sont nés dans l'exil. Il y a là un thème d'identité bien particulier que je voudrais d'abord mettre en évidence. Ça va nous permettre de rentrer dans le sujet concernant la rivalité entre Joseph et ses frères de manière beaucoup plus directe. Alors, nous avons souvent parlé de ce thème-là. Il y a une différenciation d'identité à l'intérieur du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est confié un idéal d'unité à construire. D'une part comme témoin pour l'humanité tout entière, cette unité avait été perdue à l'épisode que la Torah raconte et qu'on connaît sous le nom de l'épisode de la tour de Babel. Vous vous rappelez du récit de la Torah à ce sujet? Il y a eu un temps d'histoire où l'humanité était une et elle a perdu son unité dans l'éclatement de cet universel humain qui a eu pour résultat les nations. Ça se passe au niveau historique, du point de vue historique, au niveau de ce récit de la tour de Babel, que je vous rappelle très rapidement. La Torah indique de façon très claire qu'il y avait une unité de l'humanité, une unité qui n'était pas une uniformité. Et il y avait déjà la différenciation des différentes familles humaines, selon l'expression de la Torah, chaque famille humaine ayant son génie propre. Et il y a un enseignement du Talmud qui est très important à ce sujet, c'est un devoir de multiplier ribouille du Tzelem Elokim, de multiplier les manières d'être homme qui chacune d'entre elles représente la réalisation du projet de Dieu pour l'homme. Plus il y a de multiplicité des manières d'être homme, et plus le projet de Dieu comme créateur de l'homme est honoré. C'est-à-dire, premièrement, la multiplicité humaine n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, d'abord, nous allons voir comment ça devient négatif. Comment apparaît le risque que cette multiplicité, que la démultiplication par le nombre, qui est l'envers de la multiplication par le nombre, risque d'amener à des conséquences catastrophiques. C'est le premier principe. Le ribouille du Tselem est un bien. Et le fait que la Torah nous désigne cette unité humaine au niveau du langage, cela nous l'avons déjà étudié d'autre part, mais je rappelle très succinctement, le fait de dire que l'homme, l'humanité entière parlait une langue une, indique vraiment qu'il y avait une universalité concrète et réelle. Parce que pour la Torah, pour l'enseignement de la prophétie hébraïque, la spécificité de l'identité humaine, c'est sa capacité de langage. Et dire qu'il y avait un langage unique pour toute l'humanité, une langue une pour toute l'humanité, vous souvenez du verset, Vahi Aret Safa Achat, ça indique de manière très concrète et très importante qu'il y a eu un temps de l'universel humain réel, un temps qui a disparu depuis ce que raconte le récit de la tour de Babel sur lequel je reviendrai. Et depuis ce temps-là, nous ne connaissons plus l'universel humain que sous forme d'idéal. Or, l'idéal, c'est ce qui manque à la réalité. C'est-à-dire, il y a une sorte de trace qu'a laissé cette disparition de l'unité humaine, c'est l'exigence de la reconstruction de l'unité humaine, l'idéal d'universalité. C'est un idéal qui a traversé toutes les civilisations. Il a été vécu de manière authentique et intense par des individus de bonne volonté de toutes les lignées humaines, de toutes les cultures, de toutes les sociétés, ce que nous appelons les chassidés au Motarolam, et ce qu'en français on peut appeler les hommes de bonne volonté, une expression littéraire qui est entrée dans le langage courant en français. Ce n'est pas exactement les justes des nations. Et d'ailleurs, en hébreu, il n'y a pas d'expression les juges des nations. En hébreu, il y a chassidé ou motarolam, il n'y a pas de sadiké ou motarolam. C'est un autre sujet, je vous l'ai dit simplement en passant. Et en fait, aucune nation, aucune civilisation qui s'appuie sur une nation en particulier, aucune manière d'être en particulier n'a réussi une cité humaine où cet idéal de l'universel vécu authentiquement par des individus, on connaît surtout dans la civilisation contemporaine, le cas des philosophes de l'encyclopédie. Les philosophes de l'encyclopédie ont pensé cet universel humain, ils ont été un peu à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est très importante historiquement. Une petite parenthèse, et bien attention, cet idéal d'universalité n'est pas achevé dans la formule des droits de l'homme et du citoyen. S'il s'agissait des droits de l'homme, oui, mais dès qu'on ajoute « et du citoyen », il y a déjà une dimension raciste qui apparaît. Je ne sais pas si c'est clair, ça ne concerne que mes citoyens. Et bon, cette fois, il était normal qu'après la déclaration de la Révolution française, il y ait eu d'autres tentatives d'élargissement de cette notion de l'universel humain. Bon, il y a la tentative de la Révolution socialiste qui a échoué dans l'échec que vous savez. Et puis, il y a finalement ce qu'a pensé René Cassin, donc de nouveau la France, à travers René Cassin, sur la déclaration des droits de l'homme, purement et simplement. Mais je reviens au sujet. Il y a à cela une raison importante, c'est que l'idéal de la reconstruction de l'universel humain est authentique lorsqu'il est vécu authentiquement à l'échelle individuelle, mais voilà qu'aucune société humaine n'a réussi à le réussir. Ça a toujours basculé dans ce qu'on pourrait appeler en termes contemporains l'impérialisme. Et beaucoup d'universalistes sont en réalité des impérialistes. Alors j'explique la différence très rapidement, vous me direz si c'est suffisamment clair, j'aimerais bien me familiariser avec ce thème, quitte à le répéter plusieurs fois par an. C'est-à-dire, dans la perspective de l'universel, nous avons l'essentiel de l'idéal messianique, c'est-à-dire reconstruction de l'unité humaine qui préserve la spécificité géniale pour chacune des différentes familles humaines. Alors que l'impérialisme, ça consiste à imposer dans cette réémergence d'unité, mais imposer aux autres manières d'être homme, sa propre manière d'être homme. Dans l'impérialisme, c'est une nation en particulier qui prend en charge le rêve de l'universel et qui, sous le couvert de l'idéal de l'universel, impose sa propre manière d'être homme comme modèle de l'universalisme. Et je crois que nous avons, dans notre culture propre, qui est la culture française, l'exemple le plus privilégié de cet authentique idéal et de son échec authentique, c'est la Révolution française. La Révolution française a pris son essor sur l'idéal de l'universel humain et elle a échoué quelques années après dans l'Empire français, et qui est exactement l'échec de l'idéal de l'universel dans l'impérialisme. C'est très frappant, ça m'a beaucoup frappé, je me demande pourquoi ça n'a pas tellement été mis en évidence, mais quelques années après le régime de la Constituante, on bascule dans l'Empire français de Napoléon, mais c'est l'Empire français qui ne se cache pas de dire ce qu'il veut dire. Et comme lorsque nous sommes imprégnés des attendus culturels proprement français, on ne se rend pas compte comment l'événement de la Révolution française a été vécu par les autres pays européens comme une barbarie imposée à l'Europe. Les armées de Napoléon ont laissé un souvenir d'une barbarie absolue dans tous les pays qu'ils ont traversés. Jusqu'à y compris la Russie, y compris, mais surtout la Prusse, l'Italie du Nord, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique en fait. Et c'est une fois de plus, avant d'être l'Angleterre qui a sauvé le monde en étant victorieuse de l'Empire français. Ça ne veut pas dire que l'impérialisme britannique n'est pas à sa manière tout aussi condamnable, mais c'est une autre histoire. Effectivement, je me souviens de cette expérience en tant que petit Algérien de l'Ouïe, parce que, en tant que juif, je découvre que le modèle qu'on nous imposait de l'homme universel, c'était nos ancêtres les Gaulois, enfin leurs ancêtres les Gaulois, et qu'un homme universel, c'était un profil très défini, culturel, abonné au gaz, et à l'occasion, membre d'un club de pêcheurs à la ligne en Dordogne. C'était ça l'homme universel. En tout cas, pour revenir et à l'électricité, je vous dis. En tout cas, pour revenir au sujet, il y a eu donc un échec de l'unité humaine, et à partir de ce moment-là, c'est le récit de la Tour de Babel, je ne rentre pas dans les détails du récit, à partir de ce moment-là existent les nations. Et puis, dans notre langage biblique, Dieu attend qu'apparaisse quelque part une manière d'être homme capable de reconstruire cette unité humaine dans son projet messianique. qui traverse l'histoire des empires et l'histoire d'un antagonisme farouche entre les empires et cette manière de tendre qui sera porteur de l'idéal messianique, reconstruire l'identité humaine en dehors de tout impérialisme, c'est-à-dire sans imposer sa manière d'être homme aux autres hommes, et qui deviendra Israël. C'est à partir d'Abraham que chez les Hébreux se reconstitue une société qui est portée par l'idéal messianique. Et je pense, une petite parenthèse anticipée, le christianisme jusqu'à notre temps a représenté cet échec du rêve messianique universaliste qui s'est transformé en impérialisme de modèle romain. Je pense surtout à l'Église catholique qui a très rapidement repris les structures et les tendances de l'impérialisme romain à titre du rêve messianique d'Israël. Je dis bien jusqu'à notre temps. Il y a officiellement, Vatican II est une charnière, où officiellement, en tout cas, on renonce à cet impérialisme de la religion universelle qui s'imposerait au monde entier avec la clause de l'Église point de salut, pour préférer une formule plus universaliste de type messianique authentique, c'est-à-dire chaque manière d'être homme ayant sa spécificité propre dans l'unité humaine. Le problème n'est pas résolu, mais Vatican II, à mon sens, indique une charnière historique à ce sujet, au moins au niveau du vocabulaire, au moins au niveau du discours. Je le répète très très simplement, j'espère suffisamment clairement, que jusque-là, le discours chrétien, en tout cas catholique, était universel, c'est-à-dire impérialiste. C'est un monothéisme du Dieu unique. Il y a un seul Dieu et c'est le mien. Et si vous ne le reconnaissez pas, vous êtes en danger. L'islam est une religion de ce type, qui continue non seulement à être une religion de ce type, mais qui l'est de plus en plus, avec une grande exception. Ni les chiites, ni les sunnites, ni les soufis, les mystiques musulmans se rattachent à un monothéisme du Dieu un, alors que les pashtanim, je ne sais pas comment dire ça en français pour parler des musulmans, enfin les musulmans du tchat, de l'islam, sont eux des monothéistes du Dieu unique. Et dans la formule, il y a le Dieu est unique et c'est le mien. Et donc, celui qui ne l'accepte pas, c'est-à-dire qui ne m'accepte pas, est en danger. Et alors, la formule chrétienne était hors de l'Église, point de salut. Et la formule de l'islam, c'est hors de l'islam, salut. Mais c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et voilà que ce rêve de l'unité va être pris en charge par cette manière d'être homme qui est la suite de toutes les difficultés d'émergence de l'identité hébraïque authentique du dedans, des rescapés des Hébreux de la civilisation de Babel. Ça, je fais allusion au paysage culturel et spirituel et historique d'où sort la famille d'Abraham en sortant d'Ur Kasdim, deviendra Israël. Or, dès son émergence, cette identité d'Israël se voit confier la réalisation de l'idéal de l'unité. Et voilà comment ça se structure. La nation d'Israël rassemble différentes manières d'être Israël avec comme consigne idéale d'en faire l'unité. Et d'une certaine manière, l'humanité délègue ce problème de reconstruction de l'unité à la société d'Israël comme creuset de laboratoire. Et alors nous avons 12 tribus d'Israël, qui sont 13, et chacune de ces tribus est un Israël en soi. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Alors nous allons voir comment travaille cette mission d'unité en Israël à la naissance des tribus d'Israël. Et dès la naissance des tribus d'Israël, nous allons nous apercevoir, ça va éclater dans notre paracha, d'une... Tu as fait tout à l'heure le mot de stratégie, je ne sais pas si pour autre chose, une différence de stratégie messianique entre la lignée de Joseph et la lignée de Judas. Je devrais dire chronologiquement la lignée de Judas et la lignée de Joseph, j'y reviendrai. Mais sur l'écran de la problématique suivante, c'est que chaque tribu d'Israël est en soi une manière d'être Israël, et la grande difficulté intérieure à la société d'Israël, j'ai pas encore dit israélienne, mais on va retrouver ça dans la municipalité israélienne, la communauté juive de diaspora surtout dans les rassemblements de rescapés de diaspora détruite, ce qui est un peu le cas en Europe, le problème est artificiel. C'est un problème de comment faire cohabiter dans la même synagogue et avec les mêmes recherches de prérogatives d'honneur des présidents et des vice-présidents de tribus différentes. C'est vraiment un problème important, mais très second, si vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, par exemple en France, les dirigeants du gouvernement français sont très fiers de dire « Ah, chez nous, en France, il n'y a pas de problème entre Sfaradim et Ashkenazim. Il n'y a que des problèmes de préséance. » Parce que les véritables problèmes de rivalité et d'identité sont entre Français. La compétition est dans la cité française, entre Ashkenazim et Sfaradim et autres. D'ailleurs, de la même manière pour l'Angleterre, pour l'Italie, pour la Belgique, pour le Canada. Et donc le problème de l'unité de la communauté en communauté de diaspora est beaucoup plus facile à poser et à résoudre que le problème de l'unité nationale au niveau de la municipalité et donc de la Knesset. Je referme cette échappée dans l'actualité contemporaine. Mais en tout cas, c'est un peu un asthme d'ailleurs. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, nous avons différents indices, en particulier dans cette paracha de Vayetse, que chaque tribu d'Israël s'appelle un Ham, et vous voyez comment se reflète ou est délégué dans la société d'Israël le problème de l'unité des peuples en dehors d'Israël. Alors à cela se rattache la remarque importante qu'il faut rappeler, que la différenciation des tribus est née dans l'exil. De la même manière, la différenciation des communautés aujourd'hui provient de l'exil. Et donc c'est bien la différenciation de l'universel humain qui se reflète dans l'identité d'Israël, dans la cité d'Israël, dans la société d'Israël, qui a pour mission d'être témoin et creuser le laboratoire de cette unité. Voilà le thème de départ de ce que nous allons découvrir. Pourquoi y a-t-il 12 naissances, qui sont 13 d'ailleurs, des enfants de Jacob qui deviendront les fondateurs des tribus d'Israël et qui nous sera confié avec une telle précision, une telle minutie d'identité dans le fait que la Torah a tenu à nous donner le nom et la signification des noms de chaque tribu. C'est une science qui fait partie du Talmud Torah en général, mais qui est très occultée un peu partout. Et traditionnellement, nous avons l'expression pour désigner les Talmud Chachamim qui s'occupent de cela, mais... ça m'échappe, vous voyez, je pensais à autre chose, ça m'échappe. Je vous le dis en français. Ceux qui s'occupent de comprendre les noms de chacun. Et quelqu'un a cela en tête? Non, ça c'est en français, je cherche l'expression des mots. Non, c'est pas l'onomastique. C'est Dorché Réchounot. Ceux qui étudient la signification des noms. Qu'est-ce que ça veut dire Réhouven, qu'est-ce que ça veut dire Shimon, qu'est-ce que ça veut dire Lévi, qu'est-ce que ça veut dire Abraham, qu'est-ce que ça veut dire Moïse. C'est Dorché Réchounot. Et c'est très rare comme connaissance, mais ça nous est transmis par les grands commentateurs. En particulier, je me base surtout dans cette étude sur les enseignements du Shla, du Shnelochot Abrit. Et je vous en ai quelques exemples que la Gemara met en évidence de manière très, très, très dévoilée. Vous allez prendre par exemple ce que la Torah dit à la naissance de Réhouven, et je reviens à ce thème d'introduction pour l'achever, mais je vais quand même ajouter une phrase. Que ce soit bien clair, aujourd'hui la différenciation en tribus apparemment s'est perdue. Elle s'est perdue à partir de la destruction du premier temple. Il y a eu un mélange de descendants des tribus. Mais elle ne s'est pas perdue partout. Il y a certaines familles qui ont leur ascendance. On appelle ça en hébreu le Sefer Yochassin. On sait comment se rattacher aux origines hébraïques de la tribu considérée. Et je me borne à vous signaler qu'il y a certaines familles qui le savent, surtout des familles de la tribu de Juda. Pour ça, vous avez des descendants du roi David qui se baladent partout. Mais il y a le cas évident de la tribu de Lévi. Tous les Juifs s'appellent Lévi, se rattachent à la tribu de Lévi. Et le cas évident des Kohanim dans la tribu de Lévi. Mais en particulier, je vous signaler une fois, il y a une partie des Juifs marocains qui se rattachent à la tribu d'Ephraïm. Cela est connu par leur prononciation de l'hébreu. C'est en train de disparaître un peu, surtout en Israël. Prononciation particulière qui confond le Shin et le Sim. Shibolet, Sibolet. Je ne sais pas Oui, si vous connaissez la tribu, ils sont les Messiba, chez les Juifs marocains en Israël. Michel Baba, Michel Oba, Loba. Vous ne connaissez pas ça. Bon, en tout cas, je reviens au sujet. La Bible déjà indique comment reconnaissait les gens à la tribu d'Ephraïm. On leur montrait un épi de blé. On dit comment ça s'appelle ça. S'ils pouvaient dire Sibolet. Ça passait s'ils disaient Sibolet, ben, tu es d'Ephraïm. Non, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Oui, quand même, Ephraïm, c'est des Hébreux. Alors, voilà, quel est le thème que je voudrais formuler. La multiplicité humaine se reflète dans la multiplicité à l'intérieur d'Israël, mais avec une grande différence. La multiplicité humaine, livrée à ses propres forces, n'arrive pas à s'unifier. Toute tentative de reconstruction de l'universel bascule systématiquement dans l'impérialisme. Nous n'avons pas d'exception. Je pense que c'est bien clair. S'il y a des exceptions de phalanstères artificielles, retirées de la cité, et où à l'échelle individuelle, des individus d'identité différente peuvent ensemble faire monastère. Vous l'avez compris, mais ça ne fait pas une cité. Dès que les sociétés tentent de reconstituer la société des nations, c'est un cirque. Et le cirque évident, je vous cite De Gaulle, c'est l'ONU. Vous voyez, le signe de l'échec. L'échec, je veux dire, de la fatalité, de l'impossibilité de réussite. D'où vient cette fatalité? L'histoire d'Israël a traversé l'échec de tous les empires. Alors, je vous rappelle le schéma classique historique des quatre grands empires que notre histoire a traversé. Babel, la Perse, la Grèce et Rome. Alors, les empires ont existé et ils ont eu leur histoire. Sur le même modèle du cycle solaire, naissance, apogée, déclin, disparition, remplacement par une autre civilisation qui revit à peu près les mêmes péripéties d'identité humaine sous des formes différentes. Il y a un ouvrage très important qui a paru pendant la Première Guerre mondiale qui s'appelle Le déclin de l'Occident, qui a été écrit par un Allemand du nom de Oskar Splenger. Je ne sais pas si vous rencontrez celui dans une bibliothèque, lisez-le. Pourtant, il est très anti-juif, qui me parle du judaïsme comme une petite année de la civilisation musulmane. Mais enfin, quoi qu'il en soit, le thème général de ce livre, c'est de montrer les grandes structures de l'évolution d'une civilisation, de les montrer analogues dans toutes les grandes civilisations de la planète. Il y a toujours un Moyen-Âge, un âge d'or, un déclin, un 18e siècle, un 19e, je ne vous dirai pas la suite, c'est ce qu'il appelle le déclin de l'Occident. Il a été, bien avant les auteurs contemporains qui parlent des tendances suicidaires de la civilisation occidentale, qui sont en train de se laisser aller à un suicide évident, d'ailleurs qui atteint très souvent les juifs d'ailleurs, lorsqu'ils pensent en catégorie de tendance de la civilisation occidentale. Et c'est vraiment évident qu'actuellement tous les sociologues, démographes sont très inquiets de l'avenir de la civilisation occidentale qui est en train de se suicider devant les périls de la démographie universelle, qui sont en train de l'asphyxier. Donc c'est un autre sujet. Et puis, ces quatre empires, selon la typologie traditionnelle, ont été traversés par l'histoire d'Israël, qui, elle, est un projet messianique. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours une rivalité impitoyable entre ces empires et Israël. Lorsque la conscience impérialiste de ces empires diagnostique que l'antagoniste, c'est Israël, et s'instaure en antagoniste d'Israël. Ça commence avec Nimrod, autant l'avoir. De notre temps, c'est le diagnostic qu'a fait Hitler, c'est le diagnostic qu'a fait le régime soviétique, c'est le diagnostic que fait l'islam fondamentaliste. Quel est l'adversaire à abattre? C'est Israël. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce caractère systématique de l'affrontement entre l'identité impérialiste et l'identité messianique d'Israël, avec encore une fois ce cas particulier très ambigu de l'Église qui est du côté des impérialismes et qui se prétend être le messianisme d'Israël. Vous voyez à quel point nous vivons dans un monde où c'est le paradoxe qui règne. Alors l'avenir dira si effectivement l'Église va renoncer à cela et va reconnaître que c'est Israël qui est Israël, ou pas. Nous vivons les péripéties ponctuelles de ces mutations d'identité, mais je crois que ce qui se prépare, c'est annoncé dans beaucoup de textes, surtout de la Gemara d'ailleurs, un grand affrontement entre deux impérialismes, l'impérialisme musulman et l'impérialisme occidental. qui est en train de se préparer. Et comme vous le savez, c'est Israël qui est coincé entre les deux. Rappelez-vous la guerre du Golfe, ce qui s'est passé. Le véritable champ de bataille était à Tel Aviv. Je reviens au sujet. À Hanouka d'ailleurs, on évoquera précisément cet affrontement entre l'Empire, la conception grecque de l'Empire et la Judée. Et de notre temps, nous avons vécu les dernières, souhaitons que ce soit les dernières vraiment, péripéties de l'affrontement entre l'impérialisme issu de Rome occidental et le peuple juif. Ce qui s'est passé au temps de la Shoah, ce qui se passe de notre temps vis-à-vis de l'État d'Israël, c'est bien cette rivalité de la conception de l'Empire. Actuellement, elle est pensée chez les Américains chrétiens. D'ailleurs, vous avez remarqué que plus un président américain est chrétien, plus c'est mauvais pour les Juifs et Israël. Vous avez remarqué ça. Ça c'est évident avec Carter. Et ça s'accentue depuis. Mais voilà, pour revenir à notre problème, l'idée essentielle, je crois que c'est la suivante. Chaque tribu d'Israël est un Israël en soi et qui peut traverser l'histoire, même si les autres n'existaient pas par hypothèse impossible. Et à partir de un de ces Israël, des tribus d'Israël, toute l'unité d'Israël peut se réinstaller. Mais qu'est-ce que nous avons à résoudre là? C'est le problème de l'unité humaine. Et alors, paradoxe, apparent, cette multiplicité des manières d'être Israël est à l'indice de l'exil. Nous sommes indexés à la multiplicité humaine qui, livrée à ses propres forces, n'arrive pas à résoudre son problème d'unité. En société juive, il y a peut-être un espoir. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, quand nous revenons des exils, nous revenons à la manière des enfants de Jacob, chacun avec une identité d'indice universel différent. Nous sommes revenus, nous, avec le visage de l'universel français. Enfin, le visage français de l'universel. Enfin, le visage de l'universel français. Parce qu'il n'y a pas d'universel français. Il y a un visage français de l'universel. Et ce visage français de l'universel, c'est un visage multiple. Dans l'idée de la France comme une manière d'être l'homme universel, et il y en a d'autres, eh bien, il y a 1000 tribus françaises. Je suppose que si on faisait une carte d'identité dans la salle, on aurait autant de manières d'être français qu'il y a de juifs ici. Je ne sais pas si c'est clair. Et parfois avec une typologie très très précise. Pas seulement telle région, mais telle ville, et surtout tel quartier. Et si c'est la même rue, attention les numéros. C'est pas les mêmes, nous sommes les mêmes. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Alors, il est évident qu'en schématisant beaucoup et grosso modo, à part des exceptions de type idéal monastique ou phalanstère, aucune société humaine n'est arrivée à résoudre ce problème de l'unité et la multiplicité humaine, sinon par la violence, par la purification ethnique, comme on dit aujourd'hui, en se référant à ce qui se passe en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, ou par l'esclavage, ou par l'asservissement. Et d'où cela vient? Alors je vous réponds très très rapidement sur cette question-là, et puis je vais prendre un exemple pour moi et vous-même. Que chaque manière d'être une tribu d'Israël est nommée avec un profil d'identité bien particulier. Donc c'est vrai pour Lévi, c'est vrai pour Israël. Vous reprendrez le contexte de la paracha de Vayetse, on arrivera rapidement à Yosef. Eh bien, qu'est-ce que j'avais annoncé? Ah oui, la réponse à la question. Ça, est-ce que chaque nation, chaque goy en hébreu, est une manière très spécifique et donc très partielle et donc très partiale d'être l'homme? Et donc le rêve, l'idéal, est vraiment l'universel vrai. Mais la réalité, le véhicule sociopolitique d'insertion de cet idéal dans la réalité est trop partiel. C'est-à-dire, les philosophes français ont pensé l'universel, mais ils ont réalisé l'Empire français. Même si à l'échelle individuelle, ils étaient contre, parce qu'ils étaient révolutionnaires et ils étaient authentiquement humanistes et universalistes. Je pense que l'idée est claire. Il y a une fatalité, aucune nation ne peut être le véhicule de la reconstruction de l'unité humaine, parce que chaque nation est elle-même et qu'elle-même. Lorsque la révolution russe a voulu proposer à l'humanité l'idéal universel, elle a imposé l'identité russe. Et il y a un impérialisme russe de l'Empire soviétique, et qui a finalement éclaté, parce que les autres nationalités de l'Empire soviétique ont secouru le joug du pharaonisme stalinien, enfin soviétique. Vous avez compris l'idée, okay. Effectivement, le français qui pensait les idées de la Révolution française était sincère, mais il n'était que français. Et alors, ça ne pouvait pas aller pour les autres, à moins de s'habiller à la française, mais c'est un habit qui, finalement, est devenu très souvent quatre planches de sapin. Oui, je sais pas si vous avez de Noël, bien sûr. Et alors, il y a donc une fatalité de l'échelle de l'universel chez les Goïs. Est-ce que c'est clair, ce que je dis ? Oui, c'est vrai, à différents niveaux d'origine de civilisation. L'universel en politique bascule dans l'impérialisme politique. L'universel en religion bascule dans l'impérialisme religieux. L'universel en philosophie bascule dans l'impérialisme de telle ou telle école, le terrorisme intellectuel de telle ou telle école philosophique au nom de l'universel. Pour prendre cela dans les termes de notre propre société, imaginez un idéal du clan Israël qui se transformerait en secte du clan Israël qui s'imposerait aux autres membres du clan Israël. Je ne sais pas si vous voyez. Surtout ne voyez pas. En tout cas, pour revenir au sujet, il y a semble-t-il une fatalité que les prophètes d'Israël ont dénoncé dès l'origine. L'Empire, ça ne peut pas réussir, la messianie. Et il y aura donc conflit impitoyable entre les empires et le peuple de la messianie. C'est clair, je peux pas. Mais ça nous explique, plus que par ricochet, pourquoi la multiplicité intérieure à Israël n'est pas une multiplicité d'origine juive ou hébraïque, c'est une multiplicité d'origine humaine. C'est la multiplicité des goïms que nous réfléchissons dans notre société. J'en ai bien conscience en étudiant les textes. Les fils d'Israël sont nés dans l'exil. Les communautés d'Israël sont nées dans l'exil. Qu'est-ce qui différencie la communauté des Juifs ashkénazes de la communauté des Juifs espagnols, séfarades ? C'est ce qui différencie les Allemands des Espagnols. Avec tous les sous-titres possibles de ce problème. Est-ce que c'est bien clair ? Alors, très peu de séfarades ont conscience que lorsqu'ils sont orgueilleux d'être séfarades, ça veut dire qu'ils sont orgueilleux d'être espagnols, excusez du peu, ou portugais d'ailleurs. Et puis très peu d'ashkénazes ont conscience que lorsqu'ils sont fiers d'être ashkénazes, au fond ils sont fiers d'être allemands, ou victimes des Allemands. C'est clair jusque-là, c'est cette première fatalité. Alors, je ne crois pas qu'il existe un exemple dans la culture humaine d'une telle générosité spirituelle. Se réclamer du nom de nos pires ennemis. Quand quelqu'un se réclame d'être Sfaradi, il se réclame de qui ? Des hommes de l'Inquisition. Et quand quelqu'un se réclame d'être Ashkenazi, il se réclame des hommes de qui ? De Ashkenazi. Comme les nazis. Ashkenazi. En tout cas, je peux me permettre, je m'appelle Ashkenazi. Et attention de ne pas utiliser ça comme une injure. Vous allez traiter les gens de Ashkenazion, comme on fait à la Knesset. En tout cas, pour revenir au sujet, c'est une première fatalité. La deuxième, c'est que toutes ces tentatives de reconstruire l'unité humaine, le rêve étant authentique en tant qu'universel, mais la réalité catastrophique en tant qu'empire, ont toujours, en tout cas théoriquement, une solution pour toutes les identités humaines, je dis bien théoriquement, sauf pour la juive, sauf pour l'identité israélienne. Vous prenez tous les chartes de ces universels imposés, vous verrez qu'on peut faire une place à tout le monde, sauf aux juifs. Par exemple, la Révolution française. Alors, je sais que vous avez déjà savé, je crois que c'est Fernand Tonnerre qui disait tout aux juifs comme individu, rien aux juifs comme collectivité. Alors, que de ça. Ça veut dire, nous sommes égaux, soyez comme nous. Un point. Vous voyez là. Alors, on est très généreux pour tous, hein, sauf pour cette identité. Il semble qu'il y ait dans l'inconscient de l'humanité ce thème-là. C'est où le rattachement à un empire, ou être juif. Il n'y a pas de. Alors, encore une fois, le grand paradoxe de l'identité chrétienne, c'est que c'est les deux à la fois. C'est une schizophrénie contradictoire épouvantable. Je ne sais pas comment ils s'en sortiront, mais c'est leur affaire. Je reviens au. C'est clair, je reviens donc à notre problème. Prenez la naissance de Réhouven. Je vais dire le verset, nous sommes au chapitre 39. Au chapitre 39 de Réchit, Kafté, verset 32. peux pas en ricocher, ça me permet de répondre un petit peu déjà à ta question. L'antagonisme entre Joseph et ses frères n'est pas du tout la rivalité de haine que les clichés qui en parlent. Ça a été handicapé par l'antagonisme tel que le racontent les évangiles dans le récit de la Passion. Voilà. Vatara Léa. Et Léa, enfant, conçue, pardon, Vatelet Ben, elle enfanta un fils, verset 32 du chapitre 1. Vatahar Léa, Vatelet Ben, vous y êtes ?
Non.
Donnez la page.
138. 29.
Mais, alors j'ai le verset. Vatahar Léa, Vatelet Ben, Vatikrachemo, Reuben. Elle enfanta, et Léa conçut, elle enfanta un fils, et elle nomma son nom Reuben, qui amera, car elle a dit, Ira Hachem Beroni, car Dieu a vu ma misère. Elle n'était pas la préférée des deux femmes principales de Jacob. Jacob aimait Rachel, mais n'aimait pas Léa, et c'est Léa qui enfante. Regardez l'humour de la Bible, hein. Je cite l'humour. C'est un thème qui revient une autre fois d'ailleurs dans le récit de la Bible. Elkana et Hana et Penina. C'est Hana qui est la bien-aimée et puis c'est Penina qui enfante. Ici c'est Rachel qui est la bien-aimée, mais c'est Léa qui enfante. Mais ici il y a un autre thème important. Là où passera la lignée messianique, il y a empêchement d'enfanter jusqu'à ce qu'il y ait certitude de réussite de l'enfantement. Le risque d'enfanter une approximation est empêché. Et c'est le signe qu'il s'agit bien de la lignée de la matrice messianique. C'est le thème de la mère d'Israël qui est empêchée d'enfanter parce que c'est à elle que l'enfant est promis. Et tant que la matrice n'est pas capable d'enfanter le fils qu'on attend et pas une approximation, alors Dieu empêche l'enfantement.